étions restés au chapitre 3 et nous étions arrêtés au verset 15. Nous reprendrons la lecture au verset 14, mais notre étude, elle, va prendre au verset 16, ce que nous avons déjà vu, les versets 14 et 15. Nous reprendrons donc chapitre 3 de Jean et verset 14 pour la lecture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Nous n'avions pas pu, bien sûr, épuiser cet entretien de Jésus avec Nicodème. Certains auteurs, traducteurs ou commentateurs, ont pensé que, à partir du verset 16, Jean rapportait des choses qui lui étaient bien sûr inspirées, mais qui n'appartenaient pas à l'entretien de Jésus avec Nicodème. L'entretien, selon certains, aurait pris fin au verset 15. Mais c'est une erreur. Tout le reste est bien de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Je ne veux pas développer les raisons de cela, mais je vous le signale simplement au cas où vous rencontreriez cette idée que l'entretien a pris fin au verset 15 et que ça change peut-être pas grand-chose. Mais enfin, c'est une idée fausse, n'est-ce pas? C'est toujours à Nicodème que Jésus s'adresse, et c'est Jésus qui a adressé ces paroles. Ce n'est pas Jean qui les rapporte d'autre part, d'une autre source, n'est-ce pas? C'est au contraire bien Jésus qui continue l'entretien, et cela a tout de même de la valeur, de l'importance en ce qui concerne la compréhension de ces merveilleux versets. Dans le verset 16, nous arrivons là à ce verset qu'on fait apprendre par cœur, et il est bon de le savoir par cœur, bien sûr. C'est une chose qui il est possible de dire à certaines personnes quand le moment est là, n'est-ce pas, de prononcer cela. Ça vaut beaucoup mieux peut-être qu'une foule d'explications. C'est ce verset donc qu'on utilise beaucoup. Mais nous allons quand même l'étudier. Il sert à l'évangélisation. Nous allons quand même l'étudier. Ici, dans le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », nous sommes là dans une première déclaration, une première énonciation de ce que, avec Paul, nous pouvons appeler le mystère de Christ. Mystère du royaume de Dieu, mystère de Christ. Nous entrons en plein, au centre, dans la moelle, si je puis dire, du mystère de Christ. Et là, Jean commence. Il a déjà commencé, bien sûr, peut-être dans ce que nous avons lu, qui était si précieux et qui appartenait à sa vocation d'écrivain sacré, chaque écrivain sacré ayant sa vocation particulière. Nous avons vu que Jean, ce disciple que Jésus aimait, avait une vocation à l'amour. Nous avons vu qu'il a été gardé longtemps, son évangile est venu le tout dernier, après les synoptiques, et assez longtemps après les synoptiques, que là, n'est-ce pas, Jean a été donc gardé par le Seigneur, pour mûrir dans l'ombre, avec cette vocation particulière qui était la sienne. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, à toi que t'importe, Pierre, je veux que celui-là reste, je vais le garder plus longtemps que les autres. Et effectivement, Jean a été gardé cet amour, cette connaissance, mais qui lui était déjà particulière alors que Jésus était sur la terre. Cette connaissance de l'amour, elle va amplifier, mûrir, le Saint-Esprit va la faire éclore, et c'est alors que l'évangéliste Jean, apôtre, sera rendu capable de nous donner ces merveilleuses révélations sur l'amour de Dieu. Et on peut dire qu'ici, nous entrons avec Jean dans la révélation de l'amour de Dieu, le grand mobile des œuvres de Dieu. Dieu est amour, l'amour est de Dieu, nous dira Jean dans sa première épître. C'est le grand mobile des œuvres de Dieu. Et c'est la source de tout. C'est la source des œuvres créatrices de Dieu, cet amour. C'est la source aussi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé, tellement aimé. Cet amour que Jean ici, dont Jean ici commence à nous parler sous cette forme, a tellement aimé, c'est si grand, c'est si immense, eh bien, nous le retrouvons en une autre expression dans l'apôtre Paul, Éphésiens 3, verset 18 ou verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez, cet amour, Paul va en parler aussi avec des moyens d'expression tels qu'il va montrer cette immensité de l'amour et, pour ainsi dire, cette incompréhension à laquelle l'homme est arrêté, par laquelle il est arrêté, à cause même de l'infirmité de sa chair. Cet amour donc nous est montré comme une chose immense, déjà ici. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Ah, qu'est-ce que c'est que le monde? Il y a des petites variations sur le monde lorsque ce terme est employé. Tout au long des Écritures, il y a certaines variations, certaines subtilités que nous ne pouvons pas étudier maintenant, ça nous distrairait de l'étude principale, mais c'est intéressant, il faut y être attentif, faut comprendre certaines nuances qui existent dans les textes originaux et qui existent aussi dans l'idée le Saint-Esprit vous les fera percevoir. Ici, le monde, c'est l'humanité déchue. C'est cette société des hommes sans Dieu, humanité déchue, et qui vit dans sa déchéance. C'est cette société des hommes sans Dieu. Si nous voulions préciser un peu les choses, alors nous reviendrions encore à l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Voyez, j'ai inscrit, je fais un petit aparté, j'ai inscrit l'Épître aux Éphésiens dans notre programme de la retraite d'été cette année de 70, et nous n'allons pas en faire l'étude systématique. Nous étudierons certains passages en particulier, mais non l'étude systématique, nous n'en aurions pas le temps, mais je l'ai inscrit parce que cette étude cette épître des Éphésiens s'associe d'une façon bien particulière avec l'évangile de Jean. Et il m'aurait été impossible de parler de l'évangile de Jean sans parler d'une sorte de complément dans la révélation que l'on trouve dans l'épître aux Éphésiens et qui vient de Paul. Cela nous montre d'ailleurs l'harmonie, n'est-ce pas, de la révélation. Il y a une sorte de complément. Cela, ce n'est pas un phénomène particulier. Il y a dans la Bible des conjugaisons naturelles, pourrait-on dire, ou surnaturelles, de certains livres. Certains livres étant le complément d'un certain autre pour la bonne compréhension, et ça aussi, ce sont des choses qu'il est bon de savoir. Alors, Éphésiens 2:2, ou 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'est ce monde dont parle Jean. C'est un monde qui est soumis au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire à Satan. Il est soumis à un certain esprit, il est orienté par un esprit qui agit maintenant dans le monde. Le monde est appelé ici par une périphrase, les fils de la rébellion. Voilà ce qu'est le monde. Regardons encore, pendant que nous tenons les Éphésiens, dans le chapitre 2, les versets 11 et 12. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, voilà ce monde dont parle Jean, pas dans le 3:16. Voilà ce monde, n'est-ce pas? C'est bien cette humanité déchue, mais il faut la regarder aussi sous ce jour. Elle est étrangère aux alliances, elle n'a rien que devant elle une destinée horrible, la perdition, elle n'a que cela. Hein? Voilà ce monde dont parle Jean. Mais ici, notons une chose assez subtile et qu'il faut bien remarquer pour notre instruction, c'est que, en effet, comme le rappelle Paul ici, n'est-ce pas, le monde païen, de manière générale, était brisé. Des alliances, privé des oracles de Dieu, privé des promesses, n'est-ce pas? Il était privé de tout cela, puisque tout cela avait été donné aux brebis perdues de la maison d'Israël, enfin, au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et le monde était sans Dieu, jusqu'à la venue de Christ. C'est la situation, en effet, de la terre, cela. Mais cette différence à établir, qui était bonne à établir entre le peuple d'Israël et les païens, le monde païen, les Grecs, comme dira Paul, n'est-ce pas, le monde païen, cette différence va être révoquée par la venue de Christ, et une autre différence va se substituer à celle-là, une autre différence, elle est explicitée dans les Romains, dans les Galates, etc., n'est-ce pas, c'est la différence entre homme de foi et incrédule. Il va se substituer à cette différence Israël et monde païen. Pour être des enfants, des fils d'Abraham, vous n'êtes pas tous ces enfants. Et maintenant, n'est-ce pas, la différence qui va prévaloir, parce que je vous l'ai montré, l'humanité est toujours divisée en deux, jamais en trois. N'est-ce pas, on ne peut pas avoir plus d'un être. Alors, par conséquent, la division résulte cela ne peut être qu'en deux. D'ailleurs, il y a deux destinées, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas plusieurs. Hein. Alors, cette division du monde en deux va se faire selon un autre critère, homme de foi, incrédule, au lieu de peuple d'Israël et monde païen. Remarquons ici ce que nous dit l'apôtre Jean. Dieu a aimé le monde, il a tant aimé ce monde. Et ce monde dont nous venons de parler, eh bien, c'est aussi celui dont Jean dit ceci, je n'ai pas la peine d'aller tournez vos pages, écoutez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point sans lui. À un certain heure, donc, remarquez bien cela, c'est important, vous allez voir la pensée que nous allons en retirer. C'est que le Seigneur, donc, ici, nous déconseille vivement d'aimer le monde. Il nous enjoint même de ne point aimer le monde, n'est-ce pas? Parce que l'amour du Père n'est point dans celui qui aime le monde. Vous voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est important, mes amis, c'est important, ne faites pas assez attention à tout cela. Alors donc, il nous est dit d'un côté que le Père n'aime pas le monde. Et dans Jean 3, 16, il est dit que le Seigneur a tant aimé le monde. Regardons encore, avant de conclure sur ce point, je vais encore regarder Jacques. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça, voyez-vous. Alors, nous allons conclure sur ce point. Nous trouvons dans l'Écriture beaucoup de contrastes que d'aucuns pourraient appeler des contradictions, mais qui sont des contrastes nécessaires. La vérité apparaît d'un relief, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait relief, savons en photographie, il faut qu'il y ait du contraste. Eh bien, la Bible nous présente des contrastes. Et si nous ne savons pas regarder ce contraste, ou si nous voulons, n'est-ce pas, éteindre ce contraste, le supprimer, eh bien, nous altérons, bien sûr, le message de la Bible. Alors, il y a un contraste, et il faut s'en servir de ce contraste. Eh bien, il y a, voici ce qu'il faut comprendre. Dieu aime le monde, il a même aimé énormément le monde, il aime le monde uniquement en vue de son salut. N'est-ce pas? Aimer, donc dans Jean 3, 16, n'est pas un attachement au monde et à la nature du monde, pas du tout, alors là c'est l'inimitié, mais une grande miséricorde qui, par puissance, et par sacrifice, on tente à arracher le monde à la puissance de la mort. C'est uniquement cela, Jean 3, 16, c'est cela, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'amour de Dieu qui prenne une autre forme et un autre sens que cela. Il en sera toujours donc ainsi de l'amour de Dieu. La rédemption est dans l'ardente sollicitude de Dieu pour les hommes perdus, bien que ces hommes perdus soient hautement réprouvés de Dieu. Vous comprenez la chose, pas? Parce que elle n'est pas comprise. Nous faisons là des mises au point qui ne sont pas faites généralement dans nos milieux évangéliques. Je parle pas d'ailleurs, bien sûr, pas? Nous avons dans l'Église évangélique, bien sûr, des dénominations différentes, et nous voulons naturellement nous aimer aussi largement que nous le pouvons sur la base de la foi, de notre foi qui est commune, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas quand même ne pas faire attention, être attentif aux erreurs qui sont venues et s'introduire, hélas, dans la connaissance. Il y a dans certaines parties du monde évangélique cette idée que Dieu aime, il a tant aimé que il aime jusqu'à même fermer les yeux sur le péché. Mais en plus, il y a aussi cette erreur, n'est-ce pas? Et nous allons le voir, ça va se confirmer ici, que lorsque quelqu'un a reçu la grâce du salut, le pardon de ses péchés, eh bien, Dieu, n'est-ce pas, exerce son amour d'une manière que nous allons voir, n'est-ce pas, et qui est peut-être différente de celle qui s'exprime en Jean 3, 16. Ainsi donc, regardons toujours l'amour de Dieu comme un amour fort, puissant, plus fort que la mort, mais qui a un but, sauver, arracher aux forces de la mort. C'est un amour qui veut sauver. si nous regardons cet amour pour nous-mêmes, chrétiens, ou à l'égard des autres, sous un autre angle, eh bien nous commettons la plus tragique des erreurs. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi unique? Il est certain que là, il faut mettre ce mot, ce qualificatif d'unique, en comparaison avec la Genèse 22:2, cette parole qui est adressée à Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Enfin, là, Isaac n'était pas le fils unique à proprement parler d'Abraham, puisqu'il y en avait un autre, Ismaël, qui était venu avant. Mais cet Ismaël, Dieu ne l'avait pas agréé comme héritier. Il n'héritera pas avec le fils de la promesse. Alors, ton fils, ton unique, celui que Dieu voit comme étant dans un rapport avec son œuvre. Voyez-vous, comme étant dans un rapport, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, tu es attaché à lui, mais moi aussi je suis attaché parce que c'est le fils de la promesse. Il est en rapport avec toute mon œuvre. L'œuvre que je commence par toi, Abraham, eh bien ton fils, Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est celui-là, c'est par lui que va passer toute la chaîne de mes œuvres, de mes accomplissements pour la rédemption des hommes. Des hommes. Tout est là. N'est-ce pas? Alors il est dans un rapport avec mes œuvres. Il est unique en ce sens, n'est-ce pas, essentiellement. Le Fils de Dieu, est bien dans ce rapport avec le Père, ce rapport unique. Il est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il est donc dans un rapport avec cela. En outre, il est un avec le Père, nous dira la prière sacerdotale. Et le Fils ne peut donc lui-même qu'être l'objet de l'amour du Père, amour pour sa personne sainte. Ce n'est pas comme le monde que Dieu ne peut pas aimer quant à sa nature. Il ne peut l'aimer que pour le sauver. Il ne peut aimer que pour lui donner le plus grand des sacrifices. Mais il ne peut pas l'aimer quant à sa nature puisqu'il veut au contraire le changer. Hein? Mais quant à Christ, il l'aime pour sa nature, pour sa personne même. Parce que son Fils a aimé la justice. Son Fils est saint. N'est-ce pas? Rappelons-nous cet entretien du psaume 45 du Père et du Fils qui est reproduit dans l'Épître aux Hébreux. Le Père aime le Fils, Jésus nous le déclare, et le Fils aime le Père. Le don du Fils est donc immense. C'est un don, nous est-il dit, non pas un prêt, non pas quelque chose de temporaire, mais c'est un don. Quand on a donné quelque chose, on l'abandonne et on n'entend pas le reprendre, n'est-ce pas? Je pense que vous faites cela quand vous donnez quelque chose, n'est-ce pas? Si vous me donnez un jour quelque chose, je le garderai, je ne vous le rendrai pas. Hein? Et je pense que c'est bien dans cet esprit-là que vous envisagez, n'est-ce pas, le don, c'est-à-dire abandonner d'une façon définitive. Et vous savez que le Seigneur Jésus, en effet, gardera cette humanité qu'il va porter, qu'il va sublimer, qu'il va porter à la gloire, n'est-ce pas? Et qui est portée maintenant à la gloire, cette humanité, il va la garder pour toute l'éternité, et il restera éternellement le souverain sacrificateur et le roi des hommes, ses frères. Il restera cela. Donc c'est un don, non seulement ce don pour l'octroi du salut à un certain moment de la vie d'un homme, n'est-ce pas? Mais c'est un don qui subsiste. Et je le dis souvent, il faut qu'on le comprenne. Si, par exemple, Christ abandonnait son humanité, c'est impensable, mais s'il l'abandonnait, il y a des gens qui ont envisagé cela, n'est-ce pas? il retournait à l'état où il était avant, parole, n'est-ce pas, qui n'était pas faite chair encore, n'est-ce pas ? Eh bien non, s'il abandonnait l'humanité, son humanité portée à la gloire, il abandonnerait aussi ses frères. Donc c'est un don. Quiconque croit en lui, nous montre qu'il n'y a aucune exception a priori. Ça n'autorise pas évidemment cette fausse doctrine de l'universalisme. L'universalisme est la doctrine absolument fausse et en méconnaissance de la justice de Dieu qui prétend que tous les hommes, tous, absolument tous, seront sauvés, même ceux qui, sur la terre, n'auront pas cru. C'est une erreur tragique qui sévit actuellement dans une certaine partie du christianisme, hélas, mais nous voyons ici, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucune exception a priori. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Aucune exception a priori, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est l'homme qui va lui-même s'accepter, mais ce n'est pas Dieu qui va l'accepter, c'est l'homme qui va s'accepter lui-même. Petits et grands, riches et pauvres, jeunes et vieux, savants et ignorants, grands pêcheurs ou petits pêcheurs, s'il y en a, tous sont conviés au salut moyennant la foi. Et la foi est une voie accessible à tous ces gens-là. Quels qu'ils soient, elle est accessible à tous et c'est une voie qui contient tout. Nous aurons l'occasion de nous informer plus avant de la foi, du travail qu'elle peut seule opérer, nous verrons qu'elle contient tout et convient à tout. C'est vraiment le moyen magnifique, l'unique moyen. Dieu l'a donné par conséquent comme accès à la rédemption, afin qu'il ne périsse point. Périr étant, nous l'avons rappelé tout à l'heure, la destinée universelle de l'humanité déchue, et c'est là bien sûr une chose absolument terrible. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, attention, cette expression qui est si courante dans la Bible ne doit pas nous faire perdre de vue que ce n'est pas seulement une vie qui se continue éternellement, c'est-à-dire qui n'a point de fin, pas l'immortalité. Ce n'est pas seulement ça, la vie éternelle. À certains moments, le Seigneur Jésus dira la vie tout court. La vie. La vie éternelle, donc, c'est la vie véritable, qui, bien sûr, ne peut pas se perdre, mais on pourrait dire que son caractère d'être éternel est comme corollaire de sa nature, la nature de cette vie. Et cette vie, il ne faut pas en oublier le côté actuel. Il y a un côté actuel et un côté nous avons déjà fait apparaître par nos démonstrations, nos petites démonstrations, n'est-ce pas, et que nous verrons encore à nouveau, bah, le côté actuel de la vie, qui est une chose absolument nouvelle, une chose obtenue par l'action créatrice de Dieu, et c'est une chose qu'il faut posséder maintenant, au moment, à partir du moment où elle est reçue. La vie éternelle. Nous avons à faire une observation. Nous sommes là pour nous instruire, bien sûr. Nous ne voulons pas commenter pour le plaisir de commenter, mais nous commentons pour notre perfectionnement et nous désirons, bien sûr, méditer. La rédemption n'exclut nullement le jugement. Il est question ici de la rédemption. Le Seigneur parle largement de la rédemption. N'est-ce pas, il ne veut rien, que rien n'arrête cette proclamation de l'amour de Dieu pour la rédemption des hommes, mais la rédemption n'exclut nullement le jugement. Et elle va intervenir pendant la suspension des jugements de Dieu. Les jugements de Dieu sont suspendus, mais comme ils sont saints, les jugements de Dieu, comme ils sont indispensables, ils sont là, suspendus, il ne faut jamais oublier cela, n'est-ce pas ? Et il ne faut jamais avoir peur de le proclamer. Les jugements de Dieu sont arrêtés, suspendus. C'est le temps de la patience de Dieu, le temps des semailles, n'est-ce pas? Mais la rédemption n'exclut nullement cela. Les Juifs pensaient à la venue du Messie, ils ne voyaient d'ailleurs qu'une venue unique, ils n'en discernaient pas deux, ils voyaient une seule venue du Messie, et ils voyaient le Messie venant sur la terre pour exercer tout de suite, immédiatement, les jugements de Dieu sur le monde païen, et faisant en même temps entrer le peuple d'Israël, son peuple, dans la félicité du royaume de Dieu qui s'établissait sur la terre avec pour capitale Jérusalem. Eh bien, ça c'était évidemment un défaut de compréhension des Écritures. Le Seigneur Jésus ouvrira l'esprit de deux disciples, notamment pour qu'ils comprennent tout ce qui était dit de lui et de sa mission, mais la plupart des Juifs n'avaient pas compris, n'avaient rien compris de cela à cause, nous l'avons signalé, du littéralisme. Eh bien, nous, chers amis, prenons garde. Prenons garde, nous, chrétiens, de ne pas retomber dans cette erreur qui est de nature orgueilleuse. Prenons garde, nous, chrétiens, de ne pas retomber dans cette erreur qui est de nature orgueilleuse. De ne pas croire, n'est-ce pas, que le jugement de Dieu, les jugements de Dieu vont s'exercer sur tous ceux que nous cataloguons comme des incrédules, n'est-ce pas, et puis que nous tous ensemble, eh bien, nous sommes bénéficiaires, sans que il y ait la moindre question bénéficiaire de la faveur de Dieu. Attention, il s'agit toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette démarcation inflexible. Les croyants, les hommes de foi, vraiment, continuent d'exercer la foi, et les incrédules, ou ceux qui vivent dans l'iniquité, ce qui est la même chose. Il nous est dit, dans notre passage, au verset 17, surtout, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas envoyé lors de sa première venue pour juger, donc pour condamner et pour punir irrémédiablement, mais pour sauver. Ce qui nous montre bien que Dieu ménage le temps de la patience, le soleil se levant pour les méchants comme pour les bons. Il ne faut pas qu'un sort particulier soit attribué aux méchants, car alors ce serait leur rendre l'accès du salut difficile, peut-être impossible, ce que Dieu ne veut pas. Il faut que l'accès du salut soit égal pour tous. Nous allons voir tout à l'heure comment les hommes vont les uns se diriger vers la foi et vers la lumière, les autres au contraire fuir la lumière. Dans le verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ceci, c'est la résistance à la foi, l'incrédulité qui place l'homme en position de jugement. Son incrédulité placera l'homme en position de jugement. Quant à l'homme de foi, lui, il reçoit la justification, si bien qu'il n'est plus en puissance de faute et de jugement. Il ne peut pas être prévenu, n'est-ce pas, un prévenu devant les jugements de Dieu, puisque sa faute disparaît, il est justifié, sa faute disparaissant, donc il échappe nécessairement au jugement. Nous pouvons donc dire que la foi soustrait un homme à la condamnation parce qu'elle le soustrait à son péché. Elle soustrait donc au jugement et à la condamnation parce qu'elle soustrait à son péché. Mais j'insiste là-dessus, ça paraît simple, bien sûr, vous le savez, mais attention, soustrait à son péché. Si nous lisons l'Épître aux Romains, mais nous verrons que la justification a pour suite une justice, une vie de justice, n'est-ce pas? Ainsi, il n'y aura plus à regarder si un homme, tel homme, a ou n'a pas péché. Ce n'est plus dans l'économie actuelle ce qu'on va considérer, ce que le Seigneur va considérer. Il ne va pas regarder si un homme a ou n'a pas péché, non. Il va regarder s'il a cru dans le Fils, dans le Sauveur, ou s'il n'a pas cru. Et son incrédulité va se substituer à ses péchés pour le condamner. Il ne sera pas condamné à cause de ses péchés, il sera condamné à cause de l'incrédulité qui ne lui a pas permis de saisir le pardon de ses péchés. Ben, voyez-vous, et c'est ce que dit Jean, Jésus, hein, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 8 et 9, « Et quand il sera venu, le paraclet, le consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » C'est tout. Pas le péché parce qu'ils sont voleurs, menteurs, assassins, qu'ils se souillent de toute manière, n'est-ce pas ? Qu'ils se vautrent dans toutes les corruptions possibles parce qu'ils sont idolâtres aussi. Non, c'est d'abord ça. Ça devait disparaître. Ça, Dieu l'avait rayé par la rédemption. N'est-ce pas ? Cette rédemption étant donnée universellement aux hommes, non pas prise, saisie universellement, mais donnée universellement par Dieu. Alors, le péché, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas cru en Jésus, c'est qu'ils n'ont pas saisi par la foi cette rédemption. C'est là leur péché. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi un certain péché, d'ailleurs, je fais ça, mènera à la mort, parce qu'il sera un péché, ce péché qui mène à la mort, le péché contre le Saint-Esprit, parce qu'il ferme, alors c'est le seul qui ferme vraiment à un homme la rédemption. Il ferme la rédemption. Bah. Toutefois, l'Écriture nous montre que la repentance qui est dans l'expérience du salut, par le Seigneur Jésus ayant dit de prêcher la repentance en son nom, il faut prêcher la repentance, et nous savons quelle importance rend la repentance dans la conversion. Eh bien, la repentance, qu'est-elle ? Elle est un jugement intérieur. C'est pourquoi, n'est-ce pas, si nous l'affaiblissons, si nous la transformons, et si, à la place d'une réelle repentance, nous montrons à ceux que nous voulons instruire, que nous voulons attirer au Seigneur, si nous leur montrons, n'est-ce pas, une petite chose bénigne, quelque chose qui n'a de repentance qu'une faible apparence, n'est-ce pas ? C'est un mal de notre temps, hélas, n'est-ce pas ? Eh bien, alors, nous empêchons un jugement intérieur de se produire. Bah, il y a un jugement intérieur, Dieu veut que l'homme se juge lui-même. Et ce jugement intérieur doit agir autant qu'il est nécessaire tout au long de la vie chrétienne. En effet, 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, cela est dit à des chrétiens. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, le Seigneur peut maintenir cette mise à part du jugement du monde, n'est-ce pas, dont il est question dans le salut. Mais comment veut-il la maintenir ? Par un jugement de soi-même. Quand nous nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi il est si tellement important de s'examiner soi-même, comme dit d'ailleurs l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, pour savoir si vraiment la foi est opérante en vous, n'est-ce pas ? Examinez-vous vous-même. Jésus énonce donc, dans le verset 18 de chapitre 3 de Jean, il énonce donc un principe global et universel qu'il faut comprendre et placer dans l'enseignement d'ensemble des Écritures. Et c'est faute d'avoir fait cela que certaines parties du monde évangélique s'est fourvoyée. Hein, et qu'on a, notamment, on est arrivé à une sécurité du salut qui a dépassé et qui a, disons, foncé, parce que tout est bien dans les dispositions de Dieu, n'est-ce pas, mais qui a faussé les dispositions de Dieu. Un salut, une assurance de salut qui était conservée même par ceux qui s'éloignent complètement de la foi, qui n'exercent plus la foi, qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils ont cru un moment, ça suffit, ils sont sauvés parce qu'ils ont cru un moment, n'est-ce pas? Et ce n'est pas cela du tout que disent l'ensemble des Écritures. Ici, Jésus énonce le principe de la rédemption, et comme cela se fait partout, aussi bien dans les Épîtres que dans les discours du Seigneur Jésus, quand il tient un sujet, un grand sujet, eh bien il reste sur ce sujet. Et il n'enseigne pas les restrictions, ou si vous voulez, les aperçus adjuvants, n'est-ce pas, de cet enseignement central qu'il donne. Il faut savoir cela dans l'Écriture. Mais c'est à nous de reconstituer la totalité, n'est-ce pas, et de ne jamais bâtir une doctrine sur un verset ou sur quelques versets pris isolément dans l'ignorance ou dans la méconnaissance du reste de l'enseignement biblique. Et les versets 19 à 21 sont très intéressants et contiennent là un aspect de la révélation généralement inconnue. Nous allons entrer dans quelque chose, mes amis, qui est généralement inconnu, c'est-à-dire laissé de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais on le laisse de côté. Mais voyons, relisons ces versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Que veut nous dire ici le Seigneur Jésus? Eh bien, il veut nous dire qu'en le rejetant, lui, lumière du monde, l'homme motive d'abord sa condamnation. Bah, c'est le motif qu'il va fournir lui-même, le motif à sa condamnation. Le motif à sa condamnation, j'ai dit tout à l'heure, c'était pas ses péchés. Ça, c'était pas ses péchés, puisqu'il y a une rédemption pour les péchés. C'était pas ses péchés. Le motif qui subsiste pour sa condamnation, c'est précisément le rejet de la lumière. Hein? Et le jugement final constatera uniquement ce rejet. Jean 12, verset 48. Ou versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qu'il juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Cette parole est là, n'est-ce pas, pour dire, eh bien, il y a rédemption et rédemption universelle s'adressant à tous les hommes, rédemption pour tous. A priori, Dieu donne rédemption à tous par Jésus-Christ. Mais il fallait avoir le Fils, il fallait saisir le Fils, il fallait le prendre, n'est-ce pas, et point question de tous tes péchés, c'est pas la peine d'aller voir tout ça, c'est ton rejet du Fils, et naturellement de cette parole, c'est ton rejet qui te condamne maintenant. Le jugement final va donc constater le rejet de Christ et des paroles de Christ. La lumière dont il est question ici, n'est-ce pas, nous l'avons déjà parlé, mais je vous ai dit que nous étudierons le concept lumière, nous l'étudierons au fur et à mesure de notre progression, parce qu'il est très délicat.
Enfin, ici, nous pouvons dire un peu plus, c'est que la lumière, c'est la puissance de la vie dans la sainteté de Dieu. La lumière, la puissance de la vie, mais attention, la puissance de la vie laissée dans son atmosphère qui est la sainteté de Dieu. Il ne peut pas être question de lumière, n'est-ce pas, si l'on parle de vie hors de la sainteté. La lumière des vivants. Donc la lumière, c'est la puissance de la vie dans la sainteté de Dieu. Et sans détourner, là est le péché, est le motif du jugement. Ah, et là nous arrivons à quelque chose de bien délicat. Il nous est dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a une préférence. Les hommes qui viennent pas à la lumière, n'est-ce pas, qui rejettent la lumière, eh bien, ces hommes-là, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, n'aime pas la lumière. Il s'en écarte et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il ne veut pas que ses œuvres, qu'il sait mauvaises, soient dévoilées. Il veut les garder. Il veut rester là dans ses œuvres. Eh bien, c'est l'incrédulité, n'est-ce pas, bien sûr, ces hommes qui ne veulent pas que leurs œuvres mauvaises soient dévoilées, ce sont des incrédules. Mais pourquoi sont-ils incrédules? Parce qu'ils ont mauvaise conscience. Ah, voilà ce qui est nouveau. Et l'incrédulité, en somme, dévoilera la conscience de l'homme. C'est là la grande vérité apportée par les versets qui terminent ce passage. Ben, l'incrédulité dévoilera l'état de conscience de l'homme. Tout homme devra, sur la terre, être mis en présence de la lumière. Nous ne savons pas comment cela se fait. Mais souvent, nous nous inquiétons, disons, mais nous entendons parler de Christ, mais les hommes, etc. Tout homme sera mis en présence de la lumière. Il y a un psaume, notamment le psaume 25, qui dit que tout homme humble, n'est-ce pas, et qui se laisse gagner par la crainte de Dieu, Dieu lui montrera la voie qu'il doit choisir. Dieu lui montrera. Alors, ne vous mettez pas à la place de Dieu, ne vous inquiétez pas pour Dieu, ça ne va pas vous faire du souci tout de même. N'est-ce pas? Souvent, on se fait du souci, ce qui est quelquefois un petit peu un faux fuyant aussi, n'est-ce pas? Attention. Laissez Dieu faire, il sait ce qu'il fait, il est grand, vous ne savez pas ce qu'il fait pour les autres, mais tout homme devra être confronté avec la lumière. Tout homme ne recevra pas peut-être le même don, mais il sera confronté avec la lumière. Et selon le fond de sa conscience, c'est la pierre de touche, cette foi dans la lumière, selon le fond de sa conscience, il préférera une chose ou l'autre. Il préférera rester comme il est, et au contraire aller se cacher encore même davantage, n'est-ce pas, et s'enfoncer davantage dans ses œuvres mauvaises qu'il est, ou bien alors il viendra, il cédera à cette lumière, il viendra, il se laissera aspirer par cette lumière, n'est-ce pas, nous allons le voir tout à l'heure. Mais voyons surtout l'homme qui refuse, qui rejette cette lumière. Ceux qui sont liés au mal. Je ne dis pas, par contre, les plus grands pécheurs, c'est pas ça. Faut pas confondre, n'est-ce pas? Il y a des pécheurs très très grands qui sont dans le cas de ceux que nous allons voir tout à l'heure, qui aspirent au contraire à la lumière et qui se laisseront porter par la lumière. Mais il y a des gens qui ne paraissent pas, peut-être, dans la société, tellement mauvais, pas, ou faire tellement, tellement corrompu, mais ils sont liés au mal. Ils sont liés au mal, et ils veulent persévérer dans leur mauvaise œuvre, c'est pourquoi ils repoussent la lumière. Et voilà la cause de leur incrédulité. La cause de leur incrédulité est là. Ceux qui préfèrent les ténèbres, auxquels leur conduite, par œuvre, il faut entendre nécessairement cela, conduite, auquel leur conduite appartient, reste attachée à une sorte de mensonge intérieur qui leur sert à se disculper. vis-à-vis de la lumière. Et c'est pourquoi vous voyez des gens, n'est-ce pas, qui sont ressentent l'attirance de la lumière. Vous parlez d'évangile, n'est-ce pas? Ah, ils viennent, oui, ils sont. Puis alors, dès que le diable, n'est-ce pas, leur a dit intérieurement, mais mon ami, attention, tu sais ce que tu fais, évangile, tu sais ce que ça va te demander, il va falloir qu'il pense, hein. Tu sais, ces petites choses que tu as là-bas, tu sais, et tu pars là aussi, ces petites choses-là, tu caches joyeusement, mais enfin, tu as ces petites choses, ça contribue à ta vie, c'est ton plaisir, c'est ton. Tout ça, eh bien tout ça, tu vas devoir rompre avec tout ça, c'est fini l'évangile, tu sais, moi je peux te l'annoncer aussi l'évangile, eh bien voilà ce qu'il te demande l'évangile. Alors il y a un combat, dans ce combat, l'homme se referme, vous le retrouvez quelquefois le jour suivant, après lui avoir annoncé l'évangile, alors qu'il vous semblait ouvert, il vous semblait venir, rompre, vous le voyez fermé, fermé. Hein? Alors il va, au besoin, s'il est catholique, il va aller se réfugier vite dans le catholicisme, parce qu'il sait que dans le catholicisme, ses œuvres mauvaises, on les laisse tranquilles. Hein? Voyez-vous? Alors, c'est ça que le Seigneur nous montre ici. C'est cela, n'est-ce pas? Il y a une compromission à l'intérieur de la dans la conscience de cet homme, une compromission avec le mal. Et alors, il ne veut pas, c'est pour ça qu'il fuit la lumière. Il la fuit, repousse Christ. Pourtant, ça l'attirait, pourtant, il sentait qu'il y avait là quelque chose de bon. Mais non, il faut qu'il a. Il y a des gens qui vous le disent d'ailleurs ouvertement, enfin, des gens, ça arrive, qui vous disent, ah non, écoutez, j'ai bien réfléchi, mais il faut que ceci, cela, il faudrait que j'affronte telle chose, que je me fâche peut-être avec des enfants, ou que ceci, que cela, et puis que je me prive de ceci. Ah non, non. Non, je peux pas, écoutez, c'est bien l'évangile, c'est magnifique. Il voudrait bien, n'est-ce pas, mettre le vin nouveau dans les vieilles outres, mais c'est pas possible ça, n'est-ce pas? Il voudrait bien garder leurs vieilles outres avec ce vin gâté qui est là à l'intérieur, n'est-ce pas? Et puis mettre le vin nouveau, parce qu'il est bon ce vin nouveau, ça, il voudrait bien le mettre là, mais tout éclate, tout est perdu, ce n'est pas possible, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Quiconque fait le mal, et par mal il faut entendre non pas seulement l'immoralité, mais tout ce qui est égoïste, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est domination, tout ce qui est recherche d'une gloire humaine, tout ce qui est enseignement du mensonge. Des hommes qui peut-être moralement peuvent paraître indemnes de faux, de graves, ou de vices, ou de passions, etc., n'est-ce pas? Et ces hommes qui ont dit, oh, même, ce sont des hommes respectables, ce sont des hommes bien, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, peuvent être tenus par une seule chose seulement. Par exemple, l'enseignement du mensonge. J'ai vu cela. J'ai vu des hommes qui auraient été autrement, certainement, attirés par l'évangile et qui auraient cédé à l'évangile. S'ils ne s'étaient complus dans un certain enseignement, scientifique par exemple, ou philosophique ou autre, de l'erreur, du mensonge, bah, et quand j'ai dit à certains hommes, vous ne pouvez pas enseigner ça comme une vérité, parce que c'est pas vrai, c'est un mensonge, et devant le Seigneur, vous seriez constamment en faute, et vous feriez du mal, vous continueriez à faire du mal, d'enseigner ces choses pernicieuses, n'est-ce pas? Eh bien, des hommes ont dit, ah oui, mais j'aime mon métier, j'aime ça, le pas. Et puis, ils ont continué, ils ont été tenus par cela. Ainsi, on peut dire qu'il y a une relation, et c'est le Seigneur qui l'établit, cette relation, entre, si vous voulez, le mal, la pratique du mal, que ce soit immoralité, que ce soit idolâtrie, que ce soit tout ce que vous voudrez, entre le mal, il y a une relation entre la pratique du mal et l'incrédulité. Ça nous est montré, et c'est un aspect des choses que l'on ne voit pas toujours. Bien sûr, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on va sauver les propres justes. Les propres justes, ce sont des gens qui précisément sont attachés à l'incrédulité parce qu'ils sont attachés à leurs œuvres mauvaises, n'est-ce pas, auxquels ils donnent une apparence de justice. Ils sont attachés à des préjugés qui sont en eux, à des pensées qui leur sont propres, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas en démordre. Par conséquent, c'est le mal, ça aussi, ils sont attachés au mal. Mais attention, n'est-ce pas, de tenir compte de ce que nous dit ici l'Évangile. L'incrédulité ne peut donc pas être une chose loyale et sincère. Commettons souvent l'erreur de dire cela, ne pas, oh oui, crois pas celui-là, oui, crois pas. Mais il est sincère. Nous, mes amis, nous ne sommes pas Dieu pour regarder au fond des consciences, nous ne sommes pas Dieu pour juger non plus, mais nous sommes avertis par l'Évangile, l'incrédulité n'est pas une chose loyale et sincère. Elle est le produit d'une préférence à l'égard du mal. Et elle n'est pas comme on le croit quelquefois, elle n'est pas philosophique, ou elle ne résulte pas d'une impossibilité d'exercer la foi. Hein? Il y a des gens qui disent, ouais, je peux pas exercer la foi. Je voudrais bien, mais oui. Oh, mais ça, c'est bien, c'est votre évangile, c'est très bien. Mais je ne peux pas. Ça ne m'a pas été donné, alors je ne peux pas exercer la foi. Hein? C'est un faux fuyant. C'est bien autre chose qui les retient éloignés de la foi. N'est-ce pas? C'est autre chose, il faut que nous sachions, parce que si c'était une impossibilité d'exercer la foi, eh bien, savez-vous que ça reporterait la responsabilité de leur perdition sur Dieu. Dieu qui ne leur aurait pas donné, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils voudraient nous faire penser. Dieu ne leur a pas donné ça, n'est-ce pas? Dieu a donné à tout homme un sens spirituel qui est dans son cœur et qui lui permet d'exercer la foi. Mais nous allons voir un cas, parce que, vous voyez, la chose que je vous dis là, c'est extrêmement importante, c'est une chose généralement très laissée de côté ou mal considérée, et pourtant elle est dans l'Évangile, nous avons besoin de savoir cela. Je vais vous montrer dans un récit de l'Évangile l'attitude d'un homme. L'attitude d'un homme qui, sur le plan moral, était certainement bien placé. Oh, il n'y a pas d'homme parfait, bien sûr, n'est-ce pas? Mais il y a des hommes plus ou moins moraux, n'est-ce pas? Des hommes qui sont plus ou moins soucieux, n'est-ce pas, de se respecter, de respecter certaines règles de vie, n'est-ce pas? Et puis qui, cependant, ne saisit pas le salut en Jésus-Christ. C'est le jeune homme riche dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. » Le Seigneur Jésus ne dit pas le contraire, il ne lui dit pas, « Non, mon ami, tu t'abuses. » Non, j'ai observé ces choses, il y avait, non pas peut-être, n'est-ce pas, une absence de défaillance, mais il y avait une vérité dans cela. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et l'ayant regardé, ça veut dire ayant plongé ses regards, n'est-ce pas, dans sa conscience. Vous savez, nous avons vu dans l'évangile de Jean que le Seigneur Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur ce qui était dans l'homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, il voit la conscience et il lui dit, il te manque une chose. Une seule chose. Il te manque une chose. Il y a une chose qui te manque. Autrement dit, il y a une amarre que tu as à rompre. Une seule. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, que s'est-il passé là? Cet homme, en somme, était un de ces hommes qui, au point de vue moral, et même, on peut dire, n'est-ce pas, que sur le plan général de l'iniquité et du péché, il avait peut-être beaucoup moins que d'autres. Il s'était attaché à la loi de Dieu de son mieux, n'est-ce pas, ce qui était demandé sous l'ancienne alliance, et par conséquent, n'est-ce pas, tout de même, il avait fait quelque chose en direction de Dieu. Et Jésus l'aima, il possédait une certaine rectitude morale, mais voilà, il refuse la lumière, il repousse la lumière et la vie, parce qu'il est attaché au bien terrestre. Ça, le Seigneur l'a vu dans son cœur, et c'est cette amarre qu'il voudrait rompre. Il est attaché au bien terrestre, il va rester homme naturel, et il va passer à côté de la nouvelle naissance, par défaut de foi, lequel viendra d'un mal dont il n'a pas voulu se séparer. C'est un mal, voyez-vous, c'est un mal qui est en lui, c'est un mal, et ce mal, il ne veut pas s'en séparer. Ce mal, c'est celui de l'amour, d'une jouissance terrestre. Qu'est-ce que ces biens lui procuraient? Peut-être était-ce en lui, n'est-ce pas, un sujet d'idolâtrie? Peut-être, au contraire, en tirait-il une jouissance qu'il considérait comme licite, n'est-ce pas? Nous le savons. Mais, de tout sens, il avait un attachement, un amour pour la jouissance terrestre de ses biens, et qui est un mal. C'est un mal, n'est-ce pas? Ça vient de la chute, c'est un mal dont il ne veut pas se séparer. Voilà le cas, c'est un cas presque extrême, dirait-on, n'est-ce pas, d'un homme qui va rester dans l'incrédulité, car c'est ça l'incrédulité. Il ne faut pas croire que l'incrédulité, c'est seulement le fait, n'est-ce pas, de repousser, de nier Dieu, etc., n'est-ce pas, que c'est l'athéisme. Non, l'incrédulité, c'est le fait de quelqu'un qui se refuse à exercer la foi sur la personne de Jésus. C'est ça l'incrédulité. Et par contre, avons-nous lu, l'attachement à la vérité permet la foi. L'attachement à la vérité. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il vient à la lumière. Donc, il est pécheur comme tout homme, celui-là. N'est-ce pas? Il est pécheur. Il vient à la lumière. Il a besoin de la lumière aussi. Il a besoin comme d'autres. Mais celui-là, il vient à la lumière. Il agit selon la vérité. Jésus dira, lorsqu'il comparaîtra devant Pilate, il dira ceci: je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Bah, quiconque est de la vérité. Et c'est à mettre en équivalence avec ceci: celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Les hommes dont il s'agit ici sont donc des pécheurs, mais ils n'aiment pas leur péché. Voilà la différence avec les autres, c'est qu'ils n'aiment pas leur péché, ils subissent leur état de péché, ils sont faibles, sont incapables de s'en sortir eux-mêmes, mais ils n'aiment pas leur péché, ils n'aiment pas, n'est-ce pas, ils aspirent à être délivrés. Et ce sont ces hommes dont parle Romains chapitre 2, verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il cherche quelque chose, il soupire, mais il ne le trouve pas. Dans Jean aussi, le Seigneur, Jean 8, verset 47, le Seigneur nous dit: celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voyez-vous? N'est-ce pas? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a en vous un attachement au mal. Et vous n'êtes pas, vous ne soupirez pas après la libération. Vous ne soupirez pas, vous complaisez dans votre mal. Il vous plaît, votre mal. Vos œuvres ténébreuses, ça vous convient. Vous y restez attaché. Alors, vous ne pouvez pas écouter mes paroles. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas exercer la foi. Celui qui est de Dieu, si vous soupiriez tout en pataugeant dans votre tourbe, n'est-ce pas? Mais vous seriez là comme un désespéré qui cherche partout quelqu'un pour le sauver. Alors là, oui, vous écouteriez, vous saisiriez la main qui se tend vers vous, vous saisiriez la lumière. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean. Et vous voyez que c'est corroboré par d'autres passages. L'homme qui soupire vers le bien, qui cherche la droiture, celui-là s'approchera de Christ. Et il lui remettra sa vie par la foi. C'est plus exactement sa conduite, son bien intentionné, n'est-ce pas? Il cherche, mais tout cela est encore, évidemment, du charnel, n'est-ce pas? C'est bien intentionné, ses œuvres sont incapables de devenir par elle-même une source de salut, bien sûr, ou de devenir le bien. Mais attention, ces œuvres sont une manifestation de soupir, et c'est pourquoi il est dit qu'elles sont faites en Dieu. Elles sont faites en Dieu. Elles sont une manifestation d'un désir, d'un soupir intérieur, et alors, il viendra à la lumière, dès que la lumière s'approchera de lui, luira, n'est-ce pas, dans son environnement, alors il s'approchera de la lumière de Jésus, afin que ses œuvres soient manifestées. C'est à ce moment-là que ses œuvres seront mises en forme d'œuvres justes, deviendront des œuvres justes à ce moment-là, n'est-ce pas, quand la lumière aura fait son œuvre en lui et sur lui, n'est-ce pas? Voilà ce qui est dit. Voilà ce que l'évangile de Jean nous dit, chers amis, et nous n'en tenons souvent pas compte du tout. Ce n'est pas des choses dont nous allons faire tellement la théorie aux gens que nous évangélisons, mais pour nous, il est nécessaire de savoir cela, n'est-ce pas? Que l'incrédulité, ce n'est pas quelque chose et qui est plus ou moins vague, et qui est plus ou moins... Et l'incrédulité, je répète, c'est le non-exercice de la foi sur la personne de Jésus. Eh bien, cette incrédulité, c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Des gens sont... Ouais, se trouve comme ça que des gens ont la foi, peuvent avoir la foi des autres, d'autres non. Oh, c'est malheureux, c'est comme ça, mais ils peuvent pas, les pauvres, les malheureux. C'est pas ça, n'est-ce pas? L'incrédulité n'a rien de cet aspect hasardeux, n'est-ce pas? L'incrédulité, c'est quelque chose qui s'explique, et Dieu envoie le pourquoi. C'est un attachement à un mal ou à au mal, à des œuvres de ténèbres qu'on ne veut pas quitter, dont on ne veut pas se séparer. Et c'est pourquoi, chers amis, nous gagnerons le plus d'hommes possible, nous en gagnerons le plus si nous faisons intervenir la repentance. Si la repentance intervient, alors elle est capable d'aller jusqu'au maximum, d'épuiser toutes les ressources possibles, compte tenu de la liberté que Dieu donne laisse à l'homme, n'est-ce pas? Attention, il y a la conception de la liberté, là. Mais la repentance que nous pouvons prêcher, que nous pouvons... dont nous pouvons parler, n'est-ce pas, cette repentance qui sera appuyée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra convaincre de péché, de justice et de jugement, eh bien cette repentance qui est un jugement intérieur, sera-elle capable d'opérer des séparations que nous ne pourrions pas obtenir la séparation autrement, sans cette repentance. C'est elle, autrement dit, qui pousse, si vous voulez, l'action rédemptrice aussi loin qu'il est possible de la pousser dans le monde des hommes. C'est elle. Et si l'on adoucit ça, n'est-ce pas, aujourd'hui, il ne faut pas trop parler de catastrophe, j'ai lu ça dans un écrit, il ne faut pas trop parler de choses catastrophiques, il ne faut pas trop alerter les gens, il ne faut pas leur faire peur, même c'est pas la peur du gendarme. Bon, non, dites-leur, raisonnez-les, dites-leur qu'en prenant Christ, ils sont heureux, etc. Vanité que tout cela. Le Seigneur a parlé de repentance qui est un jugement. Il faut les arracher à des œuvres que nous ne connaissons pas, ne savons pas, nous, quelles sont leurs œuvres ténébreuses, n'est-ce pas? Et quelles sont les adhérences qui résistent, qui les empêchent d'exercer la foi? Nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. En tout cas, nous pourrons faire le maximum de travail par le moyen d'une repentance. Et c'est pourquoi il y a dans l'Église, je dis bien dans nos milieux aujourd'hui, des gens, partout il y en a, des gens qui n'ont pas fait une réelle expérience. Ils ont adhéré, ils viennent parmi nous, n'est-ce pas, comme parmi d'autres dénominations, la même chose, il y en a partout, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui ne sont pas des nôtres, des gens qui n'ont pas fait une réelle conversion parce qu'ils n'ont pas abandonné. Et ils ne sont pas venus vraiment à la lumière.
Ils veulent, n'est-ce pas, recevoir quelque chose. Souvent, ils adoptent une attitude qui est celle du mimétisme. Vous connaissez en matière biologique le mimétisme, n'est-ce pas, c'est le fait d'un animal qui s'adapte à son milieu en couleur, etc. N'est-ce pas? Alors, ils s'adaptent au milieu de nous, ils chantent des cantiques, ils sont là, ils se trouvent bien, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait une réelle expérience si ils ne sont pas passés par la repentance et non pas du fait de ce jugement intérieur qu'est la repentance, coupé, rompu avec les œuvres des ténèbres. Et plus tard, on s'aperçoit qu'au cours de leur engagement dans l'Église, n'est-ce pas, ou disons dans la vie de l'Église, eh bien eux, ils n'ont pas une vraie vie chrétienne et ils ne peuvent pas l'avoir. Et souvent, on ne peut pas rectifier la chose, ou alors, plus tard, ils feront la repentance qu'ils n'ont pas faite au début. Ça s'est arrivé aussi. On voit des gens, au bout de 2 ou 3 années de présence ou après avoir été baptisés, n'est-ce pas, depuis un temps, eh bien, un beau jour, ils font une repentance. On dit, mais alors, ils se convertissent. Et oui, c'est vrai, ils se convertissent vraiment. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous ceux-là. Eh bien, pensons à ces choses qui nous ouvrent les yeux sur les grandes vérités. Et, mes amis, n'imaginons pas, mais laissons la vérité nous gagner et nous instruire. Amen.